histoire, de réfléchir à ce que ça peut nous dire aussi sur des pratiques économiques. Bon, cela étant, je travaille aussi sur les conseils de prud'hommes, les thématiques sur lesquelles je me suis axée, c'était souvent des qui étaient aussi plus faciles à comprendre dans les sources, comme l'apprentissage du côté du travail, que sur le crédit en tant que tel. Mais bon, j'ai voulu proposer une réflexion sur ce qu'on peut faire avec ce type de sources. Alors évidemment, tiens, je n'ai pas pensé à apporter l'inventaire, mais on le prendra à la pause et on le fera circuler. Il y a un inventaire des sources de la juridiction commerciale de Paris uniquement, mais elle est donc particulièrement grosse, hein, en tout cas. Donc pas représentative, mais importante dans son fonctionnement. Pas représentative parce que les petits tribunaux de province fonctionnent sans doute très différemment et ce serait assez intéressant d'y aller voir, ce qui, à ma connaissance, n'a pas jamais été fait, en fait, parce que les rares études qu'on a sur des tribunaux dans d'autres villes, c'est des études à la limite de qui sont les juges, ou à l'extrême limite des rapports avec les municipalités, plus de qu'est-ce qui se passe dans le contentieux, quoi, ou même dans les faillites. Donc il faudrait aller voir la province, mais Paris est évidemment très important. Enfin, sur le 19e, c'est à peu près un quart des affaires françaises, et souvent il est très important ce qui passe par là. Donc on a un inventaire qui est paru sur ces fonds qui vont du 18e siècle, en gros, parce que le tribunal est créé en 1563, mais il n'y a pas grand-chose, c'est là des premières années, du 18e siècle au 20e siècle, sachant qu'il n'y a pas absolument tout ce qu'on voudrait, parce qu'il y a des choses qui sont restées au tribunal, et surtout il y a des choses qui manifestement ont été emportées par les greffiers chez eux, mais qu'il y a énormément de sources. Hein. Donc peut-être ce qui est le plus connu dans ces sources en matière de crédit, c'est les faillites. Donc je ne vais pas y revenir pas trop longuement à partir de mes propres recherches parce que c'est pas trop sur ça que je travaille, mais on peut vraiment en parler parce que Erika a pu travailler, parce que Claire Cyril a dirigé un beau numéro d'Histoire et Mesure sur la question qui parle pas mal de sources, enfin, où notamment Natacha en parlait. Le problème des faillites, c'est par rapport à ce qu'on disait, c'est est-ce qu'on arrive à reconnecter le dossier de faillite avec d'autres sources en fait, et notamment sur les autres intervenants que le failli. Donc c'est la réponse diffère beaucoup selon les cas, et c'est vrai que parfois c'est un peu frustrant, voilà, on a un dossier tout seul et on ne sait pas très très bien quoi en faire. Pour le mettre en série, c'est pas forcément évident parce que toutes les évaluations monétaires sont pas toujours faites de la même façon, notamment pas toujours au même moment et selon les mêmes procédures. Donc ça, c'est quelque chose à quoi c'est assez pas mal quand même pour le 19e siècle parisien. Nicolas Traquin, qui est plutôt un spécialiste de comptabilité, d'histoire de la comptabilité, qui essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire des échantillons et des conclusions un peu macro là-dessus. Je pense que Pierre Thierry, lui, en est plutôt conclu qu'il valait mieux utiliser les statistiques du ministère de la Justice si on voulait faire des choses agrégées, parce que c'était vraiment difficile de réemployer les chiffres de bilan. En gros, les chiffres de bilan, ils sont au moins aussi intéressants pour une histoire des pratiques comptables, sur comment on évalue, est-ce qu'on fait des avancements, de quelle façon, etc., que pour savoir ce qu'était vraiment la surface économique des entreprises, quoi. Donc, par exemple, voir la divergence entre le bilan proposé par le failli et le bilan rectifié par le syndic, c'est presque plus intéressant pour une histoire culturelle que pour une histoire économique, parfois. Et le problème, c'est que, évidemment, beaucoup de gens ont rêvé, à partir des faillites, de reconstituer les réseaux du crédit, même si on sait bien que c'est les réseaux du crédit des gens qui ont fait faillite. Mais souvent, on a du mal à les suivre dans d'autres sources, parce que, donc, là, je vous en ai mis un exemple, où au moins, on a leurs adresses pour une partie d'entre eux, du moins pour les créanciers, en fait, et pas pour les débiteurs, et notamment pas pour les débiteurs douteux, qui seraient plutôt intéressants. Mais souvent, on n'a que le nom, on n'a pas d'indication, profession, etc. Donc c'est pas très facile de reconstituer des réseaux en fait à partir de ça. Alors il y a quand même quelques personnes qui s'y sont assises de façon plutôt micro, c'est-à-dire en gros on parle d'une faillite, on regarde les partenaires qui ont fait faillite aussi, donc ça permet de travailler sur les faillites en chaîne. Daniel Velininoff, qu'on avait écouté ici, il avait fait ça dans son mémoire de maîtrise sur le milieu de la librairie au 18e siècle, hein, connecter une petite dizaine de faillites et voir qu'est-ce que ça nous dit un petit peu. Gérard Bioledo-Duin qui vient aussi de temps en temps et qui est sur la liste du séminaire, c'est ça aussi sur le 19e, mais aussi sur la librairie. Mais c'est pas tout à fait évident en fait de repartir de cette partie-là des sources. Alors ce qui est intéressant, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, c'est plutôt les petits récits qui sont au début des dossiers, enfin plus ou moins petits, qui racontent la vie du failli et de l'entreprise en fait. Et où à la fois on a des éléments sur des trajectoires, mais on a surtout le jugement moral qui est porté sur les causes de la faillite à travers le récit, en fait. Ça, c'est un récit qui vise à montrer que cette personne, à la fin, elle allait échouer, évidemment. Et donc, ça montre, ça dit c'est ce qui n'a pas marché. Donc, ça peut être de l'incompétence, ça peut être une espèce de folie des grandeurs qui revient souvent, je pense. Enfin, moi, je dis souvent, en ayant juste tu peux me corriger. Et cette idée, ouais, il a voulu faire un trop joli magasin, et donc, c'était pas du tout en proportion. Donc, cette idée qu'il faut proportionner ses ambitions à ses moyens, je l'avais vu dans les quelques-uns que j'avais regardés de près. C'est très balzacien aussi, quoi. Donc, ça fait longtemps qu'on dit, enfin, qu'on est plein à dire qu'il faudrait regarder ces récits-là, éventuellement de façon micro, mais aussi peut-être de façon plus systématique, mais dans le cadre de ce que ça nous dit, des changements de représentation sur les trajectoires des entreprises, sur ce qui est bien et pas bien, enfin, qu'on pourrait facilement là, en prendre vraiment beaucoup et noter quels sont ceux qui mentionnent trop d'embellissements dans la boutique, quels sont ceux qui mentionnent pas assez de formation au compte, par exemple, ou au commerce en général, comme cause de problème. Donc, sur les faillites, moi, j'ai pas très directement travaillé, mais il y a une thérapie et il y a la biblio, donc si ça vous intéresse, on peut en discuter un petit peu plus. Hein. Après, moi, ce que j'ai surtout regardé, parce que je voulais comprendre, en fait, comment ça... Enfin, qu'est-ce que c'est un tribunal de commerce au quotidien, parce que juste, on fait rien, donc c'est pas une question très problématisée, mais ça permet de situer un peu. Et notamment, moi, une de mes questions, c'est... pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des juges qui soient commerçants, en fait, et est-ce qu'il faut qu'il y ait des juges qui soient commerçants, comment les gens justifient à l'époque, et comment ces arguments se retrouvent ou pas dans une étude des pratiques, en fait. Parce que on a souvent l'impression, en fait, sur les tribunaux de commerce, qu'il y a un niveau de discours qui n'a pratiquement pas changé du XVIe siècle à aujourd'hui, qui vraiment oppose les archétypes du commerçant et du juriste dans leurs compétences respectives. Et après, quand j'en regarde ce qui se passe en pratique, mais ça n'a juste rien à voir, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu un peu rentrer dans ce qui se passe au quotidien. Alors, je pense qu'il y a trois façons d'essayer de rentrer dans ce qui se passe au quotidien du point de vue des sources et qui peuvent correspondre à trois gammes de questions sur des pratiques comme celle du crédit. Il y a essayer d'avoir une idée de la masse, hein, ce qui est particulièrement compliqué, mais qui, si on y arrivait, pourrait nous dire pas mal de choses sur le recours à la justice par rapport au crédit. Plus sans doute que sur les pratiques elles-mêmes, parce qu'évidemment on ne voit que les pratiques qui arrivent au tribunal. Peut-être des choses sur les pratiques quand même. Ensuite, il y a ce que disait un peu Guillaume aussi, essayer de suivre les affaires qui vont un peu plus loin, qui vont en appel, qui font jurisprudence, etc. Et de confronter du coup sur des problèmes substantiels le regard des juristes, le regard des juges de premier degré, donc en allant vers les sources comme les gazettes judiciaires, les recueils de jurisprudence et en les confrontant aux sources sur les procès. Et après, une troisième approche qui serait plus micro, qui est de dire, bon, dans cet océan de procès, parce que le problème, c'est que là, il y en a vraiment des millions, est-ce que certains, même les petits, donc qui n'ont pas l'importance de m'y aller, peuvent nous dire des choses sur des pratiques? Et quoi? Et là, il y a un vrai problème de représentativité. En même temps, comme c'est des pratiques sur lesquelles on n'a juste aucune autre source, souvent, ce que ça peut permettre, et là, j'emprunte vraiment la justification d'Amalia Kessler, qui en gros sur le 18e a vraiment eu cette approche-là, c'est-à-dire je regarde quelques centaines de cas, je vous en raconte une douzaine, je sais que c'est pas représentatif, mais ça nous dit des choses. Ça nous dit des choses sur des pratiques qui sont possibles, sans nous dire évidemment du tout si elles sont répandues. Mais en fait, comme c'est toujours des sources qui portent des jugements moraux, de l'égalité, etc., ça nous dit un peu comment elles étaient regardées, donc ça ne nous dit pas forcément si elles étaient fréquentes et à quel pourcentage, mais ça nous dit si elles étaient jugées complètement exotiques, absurdes, inappropriées, marque de quelqu'un qui n'y connaît rien, ou normal, classique, etc. Alors évidemment, quand il y a deux parties, chacune a souvent un avis différent sur ce qui est approprié, fréquent, etc., mais on peut arriver à voir aussi ce qu'en pensent les juges, les arbitres qui sont supposés décider. Donc voilà, c'est un peu les trois types de regard sur les sources et de recours à des sources complémentaires qui me paraissent possibles. Après, je sais pas s'il faut vraiment se lancer là-dedans, au-delà de prendre des points précis d'entrée comme la FERICA, comme la FAIF, la contrainte par corps, etc. Parce que c'est quand même des sources qui sont extrêmement désagréables. Là, je voulais vous en retranscrire plus, mais là, j'ai retranscrit des qui sont lisibles, je veux dire d'un point de vue graphique. Après, c'est du vocabulaire juridique horrible, mais au moins, on arrive à les lire. Il faut savoir que pour... Après, vous avez une impression de photo, mais vous voyez que c'est quand même pas trop mal écrit, mais qui se passe souvent, c'est qu'en fait, je suis obligée de retranscrire mot à mot pour après comprendre ce que veulent dire les phrases et trouver les mots que j'ai pas réussi à lire la première fois. Donc ça, c'est une paléographie médiévale du 19e siècle. Donc évidemment, la solution, c'est de travailler que sur ceux qui ont été écrits par des greffiers qui étaient lisibles ce jour-là. Mais on ne sait pas si c'est un échantillon représentatif des affaires, voilà. Bah, il y a probablement un biais qui est qu'on écrit très vite sur le pouce les affaires simples qui posent pas de problème. Donc, comme moi, ça m'intéresse aussi, en fait, les affaires simples qui posent pas de problème, je me suis attirée à en déchiffrer un certain nombre. Et que les affaires compliquées et de grandes conséquences, souvent on trouve des documents imprimés déjà, ou des choses recopiées avec une plus belle écriture. Mais bon, finalement c'est pas aussi... moi ça m'a quand même intéressé de préparer cette séance, même si je l'ai pas préparée assez longtemps, mais je pense qu'on pourrait faire des choses, malgré tout, avec ces sources-là. D'abord je trouve que regarder la masse, même si ça pose des problèmes... d'échantillonnage, etc. Comme on sait un peu rien là-dessus, ça dit déjà des choses. Enfin, là, ça fait un peu 6-7 ans que je gamberge là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la quantité même de procès, en fait? Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Qu'est-ce que ça nous dit sur le cours à la justice? Parce que bon, la question sous-jacente, c'est toujours est-ce que les gens s'arrangent entre eux ou est-ce qu'ils vont au tribunal? Est-ce qu'on attend la dernière extrémité? Quel type de gens ils vont, etc. On peut pas totalement répondre à toutes ces questions-là, mais on peut commencer à avancer. Alors, pour l'instant, j'ai des réponses qui sont à base de triple négation, parce que je suis pas encore arrivée assez aux conclusions, mais genre, il y en a beaucoup, mais en fait, par rapport au nombre des transactions, c'est pas beaucoup, et il y a des grosses sanctions, mais en fait, on peut aussi, même au tribunal, obtenir des délais, alors, même dans les cas où c'est vraiment pas du tout prévu pour. Donc, ce que j'en retire quand même pour l'instant, surtout pour ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on a besoin de réfléchir beaucoup plus, alors après confiance, à formel-informel, on en a déjà beaucoup parlé ici, mais c'est beaucoup évoqué sur les mécanismes de sanction, par exemple réputation versus tribunal, tout ça, et puis sur la pratique des tribunaux même, c'est une des choses qui m'intéresse, parce que la justice rendue par des commerçants, elle serait quelque part plus informelle que la justice rendue par des juristes, et qu'est-ce qu'on veut bien dire par là? Je trouve que là, c'est assez intéressant, parce que... à la fois, on peut dire qu'il se démarque de manuels de jurisprudence, voire du texte même des lois, en donnant plus de sursis, etc., sur certaines choses, par exemple. Donc, on pourrait dire que c'est parce que c'est des commerçants, c'est mettre un peu d'huile dans les rouages et tout. Mais en fait, on s'aperçoit que pour des pures questions d'encombrement du tribunal, une fois qu'ils ont décidé de faire ça, c'est totalement systématique. Donc, c'est pas informel dans le sens où on prendrait en compte, justement, la bonne foi et la réputation des gens et leurs relations, etc. Sachant que, là encore, un des mythes sur lesquels sont fondés les tribunaux de commerce, c'est que les juges connaissent les parties. Évidemment, à Paris, avec 25 juges qui sont, en plus, pour une partie d'appel, que des grands banquiers et négociants, ils connaissent pas trop les marchands de tonneaux qui viennent les voir. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de proximité? Est-ce que c'est purement la rhétorique? Pas complètement non plus. Ça veut dire avoir une connaissance d'un certain type de pratiques qui sont différentes. Enfin, on pourrait dire, d'ailleurs il y a des juges qui disent « Bon, on n'a qu'à lire Savary et les versions correspondantes, on n'a qu'à lire des manuels pour marchands, c'est bon, on comprendra les pratiques, ça va, c'est pas si compliqué. » Ce qu'on voit évidemment dans les jugements et les rapports, c'est qu'en fait les pratiques, c'est évidemment pas ce qu'il y a dans les manuels. Et donc c'est ce qui permet aux juges d'argumenter que eux ils comprennent un petit peu ces problèmes-là. Notamment, je pense qu'on revient toujours sur la question de la tenue des comptes, mais elle est assez centrale, et de la place de l'écrit. C'est dommage que Natacha soit pas là. Mais en gros, ce qu'on observe dans les affaires qui viennent au tribunal, c'est deux grands types d'affaires. Celles qui arrivent à être traitées en 25 secondes, puisque c'est quand même la grande spécificité de ce tribunal, quoi. C'est les journées où on juge 800 affaires. Donc certes, il y en a une partie dont le jugement, c'est « on en reparlera la semaine prochaine », donc elles sont pas closes, mais il y en a une partie qui sont closes aussi. Et donc, qu'est-ce qui permet ça? C'est qu'il y a un certain nombre de cas où la preuve écrite n'étant pas contestée, parce qu'elle est écrite, enregistrée, protestée, passée par les notaires, etc. Voilà. Donc, il y a une formalisation d'un certain nombre de transactions de crédit avec les effets de commerce et la façon de les gérer, qui paraît permettre une justice expéditive... Donc ce qui est un des arguments de légitimation des tribunaux de commerce, du reste, c'est d'être expéditif. Mais on voit qu'il se justifie à la fois par être expéditif et être suffisamment informel, cas par cas équitable. Alors qu'évidemment, les deux choses sont assez inconciliables. Donc il y a les cas où on a un écrit, et notamment un écrit notarié, très formalisé, comme une lettre de change, etc., qui tombe dans la case expéditif, mais du coup, on a l'impression que le fait que les juges soient commerçants, Et même le fait qu'il y ait des juges, en fait, ne sert à pas grand-chose. Ce qui est important pour les parties, pour le créancier, c'est qu'il y ait quelque part un notaire pour enregistrer, pour protester et tout, et un huissier pour envoyer chez la personne. Et éventuellement une prison pour dette derrière, puisqu'en général, c'est ce qui est demandé et ce qui est obtenu pour les commerçants.